Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes vos réactions sur le Bénin où l'émotion est encore vive. 10 jours après la double attaque djihadiste, la plus meurtrière jamais enregistrée dans le nord du pays, 54 militaires ont été tués dans la zone dite du point triple, près de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso et près des chutes du Koudou dans le parc W. L'opération a une fois de plus c'était revendiqué par le GNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux combattants. Quelle doit être la stratégie désormais pour lutter contre les djihadistes? En tout cas, le gouvernement affirme qu'il viendra à bout de ces criminels. Comment relever le défi sécuritaire alors que les attaques se multiplient? On en parle ce matin. Vos réactions, vos témoignages. RFI vous donne la parole. 33 9 693 693 70. Et comme tous les jours, évidemment, vos commentaires sur nos réseaux sociaux. J'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions. Bonjour Hassan.
Oui, bonjour Juan.
Des questions concernant votre pays, le Sénégal, après cette loi adoptée au début du mois, loi qui fait polémique car elle permet de réviser l'amnistie votée l'année dernière à la fin du mandat de l'ancien président Macky Sall.
Oui, Juan. Le Conseil constitutionnel a invalidé la loi d'interprétation de la loi d'amnistie du Pasteur. Juan. Comment le Conseil justifie-t-il cette décision? Désormais, sait-on comment seront traités les dossiers des victimes?
En tout cas, en révisant la loi d'amnistie, le PASTEF, les députés de la majorité voulaient permettre des poursuites contre d'anciens hauts responsables tout en protégeant les acteurs des actes liés à des motifs politiques. Bonjour Juliette Dubois.
Bonjour Juan, bonjour Hassan.
Vous êtes la correspondante de RFI à Dakar. Le Conseil constitutionnel a donc tranché. Cette loi d'interprétation est contraire à la Constitution. Alors expliquez-nous comment les sages ont-ils justifié cette décision?
Eh bien, le Conseil constitutionnel estime que l'amnistie des crimes les plus graves, même s'ils sont liés à l'exercice d'une liberté publique, viole la Constitution. Il rappelle que des crimes comme les meurtres, les assassinats ou encore la torture et les atteintes à la dignité humaine sont imprescriptibles selon les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Il est donc impossible de les couvrir par une loi d'amnistie. De plus, selon les sages, l'article 1er du texte proposé par le PASTEF viole le principe d'égalité entre les citoyens en créant des catégories. Et enfin, il note que cette loi interprétative modifier la portée de l'amnistie initiale et la rendait plus sévère. Or, une loi plus sévère ne peut s'appliquer rétroactivement.
Et peut-on dire que c'est une victoire finalement pour l'opposition qui avait déposé le recours devant le Conseil constitutionnel?
Alors l'opposition en tout cas s'est empressée de saluer la décision du Conseil constitutionnel. Le parti de l'ancien président Macky Sall parle d'un désaveu cinglant pour le pouvoir actuel qu'il accuse d'avoir voulu protéger en fait ses partisans en blanchissant des crimes imprescriptibles. Mais c'est une victoire plutôt sur la forme que sur le fond puisque les autorités au pouvoir ont obtenu la clarification qu'ils souhaitaient. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, les manifestants sont toujours protégés par l'amnistie mais les auteurs de crimes graves devront bien répondre devant la justice. Et pour rappel, dans la version de la loi d'amnistie votée en 2024, la ministre de la Justice de l'époque, Aissata Thalsal, avait dit que tous les crimes étaient couverts sauf ceux de torture, donc les meurtres étaient amnistiés à l'époque. Et puis au-delà du débat politique, cette décision renforce encore le rôle du Conseil constitutionnel comme gardien indépendant des institutions. Rappelons qu'il avait déjà retoqué l'an dernier le report de l'élection présidentielle.
Effectivement. Juliette, Hassan nous demande, désormais après cette décision du Conseil constitutionnel, comment seront traités les dossiers des victimes?
Alors les victimes peuvent déposer leurs plaintes devant les juridictions pénales ordinaires du pays. Certaines victimes avaient en fait déjà engagé des procédures, par exemple Papa Abdoulaye Touré, un étudiant militant qui accuse les forces de l'ordre de torture. Il avait été auditionné, mais jusqu'ici aucune suite contre les personnes mises en cause, selon lui à cause de l'incertitude créée par la loi d'amnistie de 2024. Donc désormais les victimes et les familles de victimes, parfois en attente depuis 4 ans, espèrent enfin voir avancer leur dossier. Ils envisagent de se regrouper en collectif et seront sont soutenus par Amnesty International pour constituer des dossiers solides et trouver des avocats pour ceux qui n'avaient pas encore déposé plainte.
Et la question que tout le monde se pose évidemment au Sénégal, c'est de savoir s'il y aura des poursuites contre des hauts responsables de l'époque.
Eh bien, c'est l'une des grandes inconnues. Si certaines plaintes visent des agents des forces de sécurité, elles pourraient aussi à terme remonter à des responsables politiques de haut niveau. Papa Abdoulaye Touré, par exemple, a nommé l'ancien ministre de la Justice et l'ancien patron de la gendarmerie. Tout dépendra des plaintes, des enquêtes ouvertes et du travail de la justice sénégalaise maintenant.
À suivre donc. Hassan, a-t-on répondu à vos deux questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, oui, bien satisfait.
Eh bien, bonne journée à Dakar. Merci de nous écouter dans la capitale sénégalaise. Et merci également à Juliette Dubois, correspondante de RFI au Sénégal. À Dakar, il est 8h16, c'est l'heure à Paris. 8h16, c'est l'heure en temps universel. On va repasser au standard avec d'autres questions et des questions maintenant sur les tensions entre l'Inde et le Pakistan après cette attaque terroriste dans la région du Cachemire qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à 26 personnes, 26 touristes. Bonjour Charmoc.
Bonjour Juan.
Vous êtes au nord-est du Congo. Vous nous écoutez à Imphondo.
C'est bien cela.
Voilà, quelles sont vos questions, Charmoc?
Oui, sur quels éléments s'appuie l'Inde pour accuser le Pakistan de terrorisme? Les tensions diplomatiques entre les deux pays peuvent-elles engendrer un nouveau conflit armé?
Ah, bonne question que vous posez, d'autant que la nuit dernière, de nouveaux incidents armés ont opposé soldats pakistanais et indiens le long de la frontière entre les deux pays. Bonjour Koum Bastin.
Bonjour Juan.
Correspondant de RFI à New Delhi, expliquez-nous Koum, pourquoi l'Inde a immédiatement accusé le Pakistan d'avoir soutenu cet attentat.
Eh ben alors, pour répondre précisément à la question de monsieur, les services secrets n'ont pas apporté de preuves irréfutables, mais quand même un faisceau d'indices qu'il faut remonter pour arriver jusqu'au gouvernement pakistanais, en fait. Le groupe qui a mené l'action au Cachemire indien s'appelle The Resistance Front. Alors, il a revendiqué l'attaque. Maintenant, il dit que c'est un complot du gouvernement indien. Mais enfin, au début, il a revendiqué l'attaque. Mm-hmm. Il est considéré comme une émanation d'un autre groupe qui s'appelle le Lashkar-e-Taiba. Et cet autre groupe est, lui, soutenu, en tout cas c'est la position du gouvernement indien, par les services secrets pakistanais. Donc on a trois étages comme ça, avant de remonter jusqu'à Islamabad. Mais la vérité, c'est qu'au Cachemire, donc dans une région où il y a des attentats répétés depuis 50 ans, une insurrection armée qui a fait plus de 10 000 morts dans les années 90, en fait, l'opinion indienne n'attend pas vraiment de preuves dès qu'un drame survient. C'est Islamabad qui est montré du doigt. Et puis, évidemment, c'est aussi un réflexe pour les dirigeants indiens que d'accuser l'ennemi juré par principe dès qu'il se passe quelque chose au Cachemire.
Et d'ailleurs, c'est avec la promesse de régler ce conflit qu'en 2019, le Premier ministre Narendra Modi avait justifié un virage autoritaire dans la région du Cachemire.
Tout à fait. Juste après sa réélection, il avait supprimé ce qu'on appelle l'article 370 de la Constitution indienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand le Cachemire avait rejoint l'Inde en 1949, il avait négocié un statut un peu spécial, donc à une plus grande autonomie politique avec son propre parlement et certains droits spéciaux, notamment sur le foncier local qui était réservé. Ça a volé en éclats du jour au lendemain après que Narendra Modi a été réélu. Et puis, il y a eu aussi de nombreuses arrestations, une chape de plomb militaire qui est tombée sur la région, le travail de la presse qui est devenu très difficile, en particulier nous, les journalistes internationaux qui ne pouvons quasiment pas nous rendre au Cachemire. À l'arrivée des résultats contestés, une reprise des investissements, mais les locaux se plaignent que ça ne se fasse souvent pas par des Cachemiris et pas au profit des Cachemiris. On a eu des élections locales récemment qui ont été encourageantes, même si leur portée était très symbolique. Elles ont été remportées d'ailleurs par l'opposition. Et puis le retour aussi des touristes du reste de l'Inde dans cet État qui est connu pour ses attaques, mais aussi pour ses paysages himalayens spectaculaires. Et c'est exactement là que les terroristes ont choisi de frapper d'ailleurs, dans un endroit très touristique, très beau, qui était un peu un symbole des progrès maigres mais réels qu'avait obtenu Narendra Modi en 5 ans avec sa politique autoritaire.
En tout cas, immédiatement après cet attentat, New Delhi a pris des mesures diplomatiques. Du côté pakistanais, on a également adopté des mesures similaires. La question de Charmoc, notre auditeur, elle est pertinente, à savoir si ces tensions diplomatiques risquent d'engendrer un nouveau conflit armé entre les deux pays.
C'est bien sûr la crainte qui est dans tous les esprits, pas seulement qu'en Inde, hein, l'ONU l'a formulé. Narendra Modi voit la peine des menaces, en fait, hein, puisque dans son discours au Parlement, il a dit qu'il retrouverait les terroristes jusqu'au bout de la terre s'il le fallait. Mmh. Et comme ses services secrets indiquent eux-mêmes que les terroristes sont au Pakistan, très logiquement, le bout de la terre, c'est le Pakistan. Donc, c'est une menace d'intervention armée. Et ici, tout le monde a en tête les grands conflits. Alors, ça remonte un peu, les grands conflits, mais par exemple, celui de 1971, qui avait finalement débouché sur l'indépendance du Bangladesh. Parmi les mesures que vous citiez, Juan, il y en a deux, je pense, qu'il faut que nos auditeurs aient bien en tête. Du côté indien, la suspension du traité sur la répartition des eaux de l'Indus, qui datait des années 60. Alors, l'Indus, c'est un fleuve très important qui traverse les deux pays avec la source en Inde, mais qui traverse ensuite le Pakistan et qui est vital pour les Pakistanais. Donc ça, si ces menaces étaient mises à exécution, ça pourrait vraiment mettre le feu aux poudres. Mmh. Et côté pakistanais, une menace qui a littéralement mis le feu aux poudres, c'est-à-dire la fin de la ligne de contrôle, l'arrangement frontalier sur lequel les deux pays s'étaient mis d'accord dans l'Himalaya. Et dès cette décision prise, d'ailleurs, on a entendu toute la nuit des échanges de feu entre les deux pays dans la zone.
Ouais, ça fait 4 nuits consécutives, effectivement, que des tirs ont lieu de part et d'autre de la frontière entre soldats pakistanais et indiens. Pour mieux comprendre les tensions entre les deux pays, je renvoie évidemment nos auditeurs au site RFI.fr et les nombreux articles de Koum Bastin, notre correspondant à New Delhi. Charmoc, a-t-on répondu à vos questions ?
Bien, parfait, Juan.
Merci à vous de votre fidélité, de votre confiance. Koum Bastin, bonne fin d'après-midi à New Delhi. 10h22 à Paris. On va repasser au standard. Des questions maintenant sur la succession du pape François, 2 jours après ses funérailles. Marc, vous êtes à Sokodé, au Togo. Bonjour.
Oui, tout à fait, Juan. Juan, bonjour.
Merci d'être avec nous, de nous avoir contactés. Quelles sont vos questions, Marc ?
Juan, j'ai vu sur les réseaux sociaux que le nom du cardinal guinéen Robert Sarah ressort beaucoup comme potentiel successeur du pape François. Mm-hmm. J'ai quelques interrogations à propos. Que sait-on du cardinal Robert Sarah ? Quelle vision de l'Église a-t-il et quelles sont aujourd'hui ses chances d'être élu pape ?
Alors, c'est vrai que son nom revient régulièrement comme l'un des papabili. Son nom avait déjà été évoqué il y a 12 ans, rappelez-vous, lors de la succession de Benoît XVI. Bonjour Christophe Dickès.
Bonjour.
Historien du Vatican, vous publiez aux éditions Perrin pour l'Église ce que le monde lui doit. Présentez-nous le cardinal Robert Sarah. Quel est son parcours au sein de l'Église ?
Alors, Robert Sarah, en fait, est né en 1945. Il va atteindre la limite d'âge, d'ailleurs, du conclave au mois de juin prochain, puisqu'il va célébrer son 80e anniversaire. Alors, il est né en Guinée. Il a été archevêque de Conakry en 1979 et ça a été d'ailleurs le plus jeune, à 34 ans, le plus jeune évêque du monde. Il a dû faire face, si vous voulez, à une période extrêmement difficile, hein, qui a été la dictature d'Ahmed Sékou Touré, qui a présidé la Guinée de 58 à 84, et il faisait partie d'ailleurs des personnes, enfin le cardinal Sarah, enfin le Monseigneur Sarah, faisait partie des personnes qui potentiellement pouvaient être éliminées par le régime. Il a succédé à Raymond-Marie Tshilimbo, qui a lui-même a été emprisonné 8 ans sous le régime de Sékou Touré, qui était un régime communiste. Et donc, vraiment, il a été un des symboles, si vous voulez, de la défense de la liberté religieuse. Alors, il a été fait cardinal par Benoît XVI en 2010, et puis ensuite, ensuite, en 2014, il est devenu préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. En fait, c'est une congrégation, c'est une sorte de ministère, et c'est un ministère qui gérait toutes les questions liées au culte. Alors, en fait, dans l'Église, il fait partie du mouvement des conservateurs. Il est reconnu comme tel. Alors, est-ce que...
Il est reconnu comme tel parce qu'il a pris des positions très claires contre le célibat des prêtres, contre l'avortement, contre l'homosexualité, y compris même contre les migrants.
Alors, en fait, la question, il est évident que l'Église, elle va pas promouvoir l'avortement, donc c'est pas étonnant, et en cela, il est pas conservateur, il dit exactement ce que dit la doctrine de l'Église. En revanche, sur le culte et sur la question du mariage des prêtres, mais la possibilité d'hommes mariés de devenir prêtres, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que lors du ce qu'on appelle le synode sur l'Amazonie, qui a eu lieu en 2019, il a signé un livre avec le pape émérite Benoît XVI, qui a créé une crise dans l'Église contre justement le fait que des hommes mariés puissent devenir prêtres, des hommes mariés qui n'aient plus d'obligation vis-à-vis de leurs enfants, ce qui était une possibilité envisagée par François, et il s'est véritablement posé contre cela. Et c'est vrai que il a défendu la messe catholique traditionnelle, il a très clairement exprimé son opposition à la migration massive européenne. En fait, il est le symbole aussi, il s'est posé aussi contre le mariage, contre la bénédiction des homosexuels, évidemment, mais ça c'est classique à l'ensemble des cardinaux africains.
Écoutant Christophe Dickès, il s'est quand même opposé à plusieurs réformes lancées donc ces dernières années par le pape François. Est-ce que ces positions conservatrices sont aujourd'hui un atout pour succéder à François, ou au contraire, est-ce que ça peut jouer en sa défaveur ?
Alors oui, il s'est posé très clairement sur plusieurs contre les réformes du pape François, qui laissait passer les personnes avant la doctrine. Le cardinal Sarah représente ce mouvement qui laisse passer la doctrine avant les personnes, la loi avant les personnes. Alors est-ce que c'est une chance ? Moi, je pense qu'il a peu de chances d'être élu parce que justement il a eu des positions très conservatrices. Et dans l'affaire Benoît XVI, c'est-à-dire du fameux livre qui est sorti au moment du synode sur l'Amazonie, il ne s'est pas fait vraiment beaucoup d'amis, et surtout il a montré une forme d'instabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire sur qui avait fait quoi, qui était responsable de quoi, est-ce que Benoît XVI avait été manipulé dans la sortie de cet ouvrage ou pas. Et donc ça, si vous voulez, ça lui a donné une très mauvaise réputation, alors que il a eu un véritable succès littéraire, puisqu'il a sorti plusieurs livres et qui fait partie des cardinaux qui ont le plus vendu de livres dans le monde. Tous ces livres ont été traduits, je pense, en une quinzaine ou une vingtaine de langues.
Effectivement, mais en vous écoutant, Christophe Dickès, il n'a pas le profil en ce moment auprès des autres cardinaux pour succéder à François.
Non, je ne crois pas, parce que, si vous voulez, il peut y avoir un effet de balancier très schématiquement entre le monde conservateur et le monde progressiste, François étant considéré comme un progressiste et Ratzinger ayant été considéré comme un conservateur, même s'il y a eu des périodes du pontificat de Benoît XVI qui étaient des périodes plus progressistes, défense des migrants, défense des pauvres, etc., comme l'ensemble des papes. Mais ce mouvement de balancier, je ne pense pas qu'il puisse aller jusqu'au cardinal Sarah, ou bien même le cardinal Müller, qui est aussi une des personnes qui s'est le plus opposée frontalement aux positions du pape François. Bon. Donc je pense que l'échiquier est trop à droite, la place dans l'échiquier politique pour le cardinal Sarah est trop à droite pour être élu.
Bon, on verra ça à partir du 5 ou du 6 mai. Je rappelle que, quoi qu'il arrive, le conclave ne commencera pas avant, puisqu'il y a 9 jours de deuil. A-t-on répondu à vos questions, Marc?
parfaitement, Juan. Explication exhaustive.
Bon, ben, on remercie surtout Christophe Dickès de sa disponibilité, historien du Vatican, et je renvoie nos auditeurs à votre dernier ouvrage publié aux éditions Perrin, « Pour l'Église, ce que le monde lui doit ». Merci à tous de votre fidélité. Je m'excuse pour les auditeurs qui patientaient au standard et qui avaient des questions à nous poser encore ce matin, mais ne vous inquiétez pas, on revient évidemment demain. Et on revient quant à nous dans 10 minutes pour vos réactions sur l'actualité. On parlera du Bénin après la double attaque terroriste.